Chapitre 41. Tous ces changements la stupéfiaient totalement. Comme si elle avait échangé l'ombre pour la lumière, une eau saumâtre pour de l'air chaud. La crasse et la boue des lentrisses s'arrêtaient en une ligne bien nette derrière laquelle les pavés redevenaient propres et blancs. N'importe où ailleurs, la propreté des rues aurait été remarquable, mais pas extraordinaire. Ici, avec la pourriture des lentrisses comme point de comparaison, sa reine eut presque l'impression de pénétrer dans le palais de Domu. Elle s'arrêta, sidérée, devant une porte en pierre pour observer cette ville dans la ville. Des gens parlaient et travaillaient. Tous avaient la peau malade des maudits des lentrisses, mais ils souriaient. Aucun n'arborait de haillons, les seules tenues qu'elle aurait cru trouver à Elantris. Ils portaient des jupes simples, des pantalons et des hauts en coton. Les tissus avaient des couleurs vives. Sa reine se rendit compte avec étonnement qu'elle les avait elle-même choisis. Ce qu'elle avait fait par esprit belliqueux, ces gens l'avaient accueilli avec joie. Les jaunes lumineux, les verts et les rouges dispensaient leur gaieté. Tout avait changé en quelques semaines. Ils n'erraient plus misérablement dans les rues en mendiant leur nourriture. Ils faisaient penser aux habitants de villages traditionnels et bucoliques. Leur nature joviale avait toujours semblé à sa reine incompatible avec la réalité du monde. Et pourtant, ils vivaient dans un lieu effroyable.
« Quoi ?»
Esprit arborait un large sourire. Il tenait toujours la jeune femme par la main lorsqu'ils pénétrèrent à l'intérieur du village.
« Bienvenue à la nouvelle Elantris, sa reine. Tout a changé ici. »«
À ce que je vois ?»
Une Elantrienne trapue, vêtue d'une robe vert et jaune vif, s'approcha d'elle. Elle observa sa reine d'un œil critique.
« Je doute que nous trouvions le moindre vêtement à sa taille, messire esprit. »
Ce dernier détailla la princesse de la tête aux pieds, puis il éclata de rire.
« Faites pour le mieux, Maharée !»
dit-il avant de se diriger vers un bâtiment bas de plafond près de l'entrée de la ville. L'endroit était ouvert. Sa reine aperçut des rangées de vêtements suspendus avec des pinces à linge. Soudain gênée, elle prit conscience de l'état de sa tenue. Elle était entièrement couverte de crasse et de vase.
« Venez, ma chère !»
fit Maharée en se dirigeant vers un second bâtiment.
« Voyons ce que nous pouvons faire !»
La femme au tempérament maternel trouva finalement une robe à peu près à la taille de sa reine, ou du moins une jupe bleue qui dévoilait ses jambes jusqu'à mi-mollet, ainsi qu'une blouse rouge vif. Il y avait même des sous-vêtements cousus dans des tissus colorés. La jeune femme ne fit pas la moindre remarque. Tout valait mieux que sa robe pleine de crasse. Après avoir passé sa nouvelle tenue, elle se regarda dans un grand miroir. La moitié de sa peau avait encore sa couleur naturelle, mais cela ne faisait que ressortir davantage encore les taches noires. Elle présumait que son épiderme sain noircirait avec le temps et qu'il deviendrait gris comme celui des autres Elantriens.
« Attendez !» demanda-t-elle d'une voix hésitante. « D'où vient ce miroir ?»«
Ce n'en est pas un, ma petite chérie !»
l'informa Maharée, tout en cherchant des chaussettes et des chaussures.
« Il s'agit d'un morceau de pierre plate, un morceau de table, je crois, sur lequel on a collé des fines plaques de métal. »
En regardant plus près, sa reine distingua à peine les plis où les feuilles de métal se chevauchaient les unes les autres. La pierre devait être particulièrement régulière.
« Mais où ?»
Sa reine s'interrompit. Elle savait très exactement d'où venaient ces fines plaques de métal. Elle les avait envoyées elle-même lorsqu'elle essayait de gagner la confiance d'esprit qui les avait réclamées en guise de pot de vin. Maharée disparut un moment avant de revenir avec des chaussettes et des chaussures d'une couleur encore différente.
« Et voilà ! J'ai dû faire des retouches et chaparder celles-ci chez les hommes !»
Sa reine se sentit rougir, mais accepta les articles.
« Ne t'en fais pas, ma petite chérie !»
dit Maharée en riant.
« C'est normal que tu aies de grands pieds. Domu sait que tu as besoin d'un peu plus de longueur que les autres pour te porter. Oh, tiens, une dernière chose !»
La femme extirpa une longue pièce de tissu orange qui ressemblait à une écharpe.
« C'est pour ta tête !»
fit-elle en désignant celle qu'elle portait enroulée autour de son crâne.
« Ça permet de moins penser aux cheveux. »
Sa reine la remercia, accepta l'écharpe et la noua autour de son crâne. Esprit l'attendait dehors. Il portait une paire de pantalons rouges et un haut jaune. Il sourit sitôt qu'il la vit.
« J'ai l'impression de ressembler à un arc-en-ciel !»
avoua la princesse, baissant les yeux pour contempler l'accumulation de couleurs. Esprit rit, lui prit la main et l'entraîna plus loin dans la ville. Elle se rendit compte qu'elle estimait la taille du jeune homme malgré elle.
« Il est assez grand pour moi, » pensait-elle avec désinvolture.
« Tout juste. » Soudain gênée, la jeune femme détourna les yeux. Le monde s'effondrait autour d'elle, et elle ne trouvait rien de mieux à faire que de jauger la taille de l'homme qui marchait à ses côtés.
« Vous habituerez à l'idée que nous avons tous l'air de perroquets au printemps, » était-il en train de dire. « On ne voit plus les couleurs au bout d'un moment. » En fait, comparée au ton monotone de l'ancienne Elantris, je les trouve assez rafraîchissantes.
Esprit poursuivit la visite de la nouvelle Elantris. La ville ne comptait pas beaucoup de bâtiments, une quinzaine tout au plus. Mais leur concentration donnait l'impression qu'elle était plus vaste. Bien que la cité n'abritât pas tellement de monde, 500 ou 600 personnes environ, l'activité y battait son plein. Des hommes réparaient les toitures et les murs. Les femmes nettoyaient les rues ou cousaient. On voyait même des enfants courir. Il n'était jamais venu à l'esprit de sa reine que le Shaod puisse aussi bien frapper des adultes que des enfants. Tous saluaient Esprit sur son passage avec force sourire chaleureux. À leur voix, on sentait qu'il l'approuvait réellement, qu'il le respectait et l'aimait. Sa reine n'avait jamais connu de peuple qui témoigne une telle confiance à un dirigeant. Même son père, que les gens appréciaient généralement, avait ses détracteurs. Bien sûr, il était plus facile de faire l'unanimité avec une population aussi restreinte, mais la jeune femme trouvait cela tout de même très impressionnant. Ils passèrent devant un homme sans âge, comme tous les Elantriens, petit et bedonnant, assis sur un bloc de pierre. Il ne les salua pas, mais son attitude n'avait rien à voir avec de l'impolitesse. Il fixait juste le petit objet qu'il tenait dans ses mains. Plusieurs enfants le regardaient travailler, dos voûté, avec des yeux avides. Au moment où sa reine et Esprit arrivèrent à sa hauteur, l'homme tendit l'objet à une enfant. C'était un magnifique cheval sculpté. La fillette, folle de joie, se mit à applaudir et le prit entre ses doigts nerveux. Le sculpteur se baissait pour ramasser par terre un autre morceau de pierre lorsque les enfants s'enfuirent. Il commençait déjà à le racler avec son outil. Comme sa reine observait ses doigts, elle reconnut l'objet en métal.
« Un de mes clous !»
s'écria-t-elle.
« Il utilise un des clous tordus que je vous ai envoyé. »«
Hum ?» fit Esprit.
« Oh oui, pour la petite histoire, sa reine, nous avons mis longtemps avant de trouver une utilité au contenu de cette boîte. Il aurait fallu consommer trop de combustible pour les faire fondre, en admettant que nous ayons eu les outils pour le faire. L'envoi de ces pointes a vraiment été l'un de vos meilleurs tours. »
Sa reine devint rouge comme une pivoine. Ces gens luttaient pour survivre dans une cité dépourvue de tout, et elle avait été assez mesquine pour leur envoyer des clous tordus.
« Je suis désolée. J'ai craint que vous fabriquiez des armes si je vous donnais du métal. »«
Vous avez bien fait de vous montrer prudente, » admit Esprit. « J'ai fini par vous trahir. »«
Je suis certaine que vous aviez de bonnes raisons de le faire, » répliqua-t-elle aussitôt.
« En effet, mais cela n'a pas vraiment changé grand-chose, n'est-ce pas ?» Vous aviez raison à mon sujet. Je suis un tyran. Je n'ai pas distribué toute la nourriture à la population, j'ai rompu notre accord et j'ai causé la mort d'hommes de valeur. »
La jeune femme secoua la tête, puis parla d'une voix plus affirmée.
« Vous n'êtes pas un tyran. Cette communauté le prouve, ces gens vous aiment. L'amour et la tyrannie sont incompatibles. »
Il sourit à peine, visiblement peu convaincu. Puis, il la regarda avec une expression indéchiffrable.
« Eh bien, votre période d'épreuve n'aura pas été complètement inutile. J'ai obtenu une chose très importante durant ces semaines. »«
Le ravitaillement ?» demanda sa reine.
« Ça aussi. »
Elle s'interrompit, soutenant son regard. Puis, elle détourna les yeux vers le sculpteur.
« Qui est-ce ? »
« Il s'appelle Ta'an. » Mais vous devez le connaître sous le nom d'Ahanden.
Le chef de bande ? Demanda la princesse avec stupéfaction.
Esprit lui confirma d'un signe de la tête.
Ta'an était un des meilleurs sculpteurs de l'Arelon avant que le Shaod ne s'empare de lui. Après son arrivée à Elantris, il s'est perdu. Puis un jour, il est redevenu lui-même.
Ils laissèrent le sculpteur à son œuvre, et Esprit lui montra les autres quartiers de la ville. Quand ils passèrent devant un grand bâtiment du nom de la Maison des Déchus, la tristesse qu'elle discerna dans sa voix la retint de poser des questions. Mais elle avait eu le temps de voir de nombreux séons, perdus à cause du Shaod, flotter au niveau de la toiture. Sa reine se sentit soudain mal. Haché doit être comme eux désormais, pensa-t-elle, se souvenant des séons fous qu'elle avait eu l'occasion de voir flotter autour des Lantris. Malgré cela, elle avait espéré qu'Haché la retrouverait cette nuit-là. Les prêtres Korati l'avaient enfermée dans une sorte de cellule d'isolement durant quelques heures. Apparemment, on ne jetait les nouveaux Elantriens hors de Kae qu'une fois par jour. Et elle était restée près de la fenêtre, à l'attendre. En vain. Dans la confusion du mariage, elle n'arrivait même pas à se rappeler la dernière fois qu'elle l'avait vue. Il n'avait pas voulu entrer dans la chapelle et s'était directement rendu dans la salle du trône. Lorsqu'elle avait pénétré dans la pièce à son tour, sa reine l'avait-elle vraiment vue flotter? Avait-elle bien entendu sa voix l'appeler au milieu de la foule des invités que son attitude avait choquée? Ou bien enjolivait-elle ses souvenirs? Sa reine soupira tandis qu'Esprit l'entraînait loin de la Maison des Déchus. Elle continua de regarder le ciel par-dessus son épaule, espérant y voir Haché, comme toujours. « Au moins il n'est pas mort, » songea-t-elle, pour atténuer sa peine. « Il doit se trouver quelque part en ville. Je pourrais le retrouver, peut-être l'aider d'une façon ou d'une autre. » Ils poursuivirent leur balade. Sa reine se laissa distraire par le paysage. Elle ne supportait plus de penser à Haché. Bientôt, Esprit lui fit traverser plusieurs espaces ouverts qui, à y regarder de plus près, devaient être des champs. De petites pousses faisaient leur apparition en rangs bien serrés dans la terre. Plusieurs élantriens marchaient entre les rangées pour arracher la mauvaise herbe. Une odeur particulière flottait dans l'air. Sa reine s'arrêta. « Du poisson ?»« De l'engrais, » répondit Esprit en riant. « Pour une fois, nous avons réussi à tirer bénéfice de votre intervention. Nous vous avions demandé du trike, sachant pertinemment que vous chargeriez le premier tonneau de poisson pourri qui vous tomberait sous la main avec la cargaison. Il me semble que vous avez beaucoup reçu en fin de compte, » fit remarquer la jeune femme, se remémorant avec honte combien elle s'était amusée à apporter des réponses ineptes à leurs diverses demandes. Mais peu importait ses tentatives, les nouveaux élantriens avaient fait bon usage de tous ces cadeaux inutiles. « Nous n'avons pas d'autre choix, princesse. Tout ce qui reste de l'élantris pré-réodienne est pourri ou souillé. Même les pierres commencent à s'effriter. Alors peu importe que vous ayez jugé ces marchandises inadéquates, elles étaient toujours plus utiles que tout ce que l'on pouvait trouver dans la cité. « J'ai eu tort, » dit sa reine, soudain maussade. « Vous n'allez pas recommencer. Si vous vous apitoyez encore sur vous-même, je vous enferme dans une pièce avec Galadon pendant une heure pour que vous preniez une vraie leçon de pessimisme. « Galadon ?»« L'homme très grand que vous avez croisé près du portail, » expliqua Esprit. « Le Dula ?» demanda sa reine, tandis qu'elle essayait de se remémorer le large visage de l'élantrien qui parlait avec un accent duladène à couper au couteau. « Lui-même. Un Dula pessimiste ? C'est la première fois que j'entends parler d'une chose pareille. » Esprit rit de plus belle, puis la conduisit à l'intérieur d'un grand bâtiment majestueux. Sa beauté laissa la princesse sans voix. Des voûtes délicates montaient en spirale. Du marbre au blanc lumineux recouvrait le sol. Les reliefs des murs étaient encore plus élaborés que ceux du temple Korati de Théoras. « C'est une chapelle, » dit-elle en faisant courir ses doigts sur les ornements de marbre. « En effet, comment le savez-vous ? Ces scènes sont tirées du Dos Korat, » répondit-elle en regardant son compagnon avec des yeux grondeurs. « Je connais quelqu'un qui n'a pas beaucoup observé la chapelle de son école. » Esprit se racla la gorge. « Eh bien, n'essayez même pas de prétendre le contraire, » insista-t-elle, le regard tourné vers les sculptures. « Vous êtes issu d'une famille noble, à l'évidence. Vous avez dû aller à l'église par convenance, même si vous n'êtes pas pieux. « Madame est maligne. Je suis bien un serviteur de Domu, même si mon esprit vagabonde durant les sermons. « Alors dites-moi, qui étiez-vous ? » demanda sa reine sur le ton de la conversation, posant enfin la question qui lui avait brûlé les lèvres dès sa première rencontre avec Esprit quelques semaines plus tôt. Il s'arrêta. « Je suis le second fils du seigneur de la plantation Yen, une toute petite propriété dans le sud de l'Arellon. Cela aurait pu être vrai. Elle n'avait pas eu le temps de retenir tous les noms des gentilshommes de rang inférieur. Il avait déjà été assez difficile d'apprendre ceux des ducs, des comtes et des barons par cœur. Mais cela pouvait également être un mensonge. Esprit avait déjà prouvé qu'il faisait un bon homme d'État, et il devait très bien mentir. Quelle que fût son identité réelle, il avait certainement reçu d'excellentes leçons de gouvernance, des qualités qui manquaient cruellement à la majorité des aristocrates arellois. « Combien de temps ?» commença-t-elle en se détournant du mur. Puis elle se figea, la gorge nouée. Esprit brillait. Une lumière fantôme grandissait à l'intérieur de lui. Sa reine pouvait voir la ligne de ses os se dessiner sous l'effet de cette force terrifiante qui brûlait dans sa poitrine. Il ouvrit la bouche pour pousser un cri silencieux, puis il s'évanouit en tremblant de tous ses membres tandis que la lumière continuait de briller. Sa reine accourut près de lui, puis s'arrêta, perdue. En serrant les dents, elle le saisit et le souleva pour empêcher sa tête de cogner le sol en marbre à chaque spasme. À cet instant, une sensation glacée parcourut les bras de la jeune femme avant de traverser tout son corps. Quelque chose de puissant, une force incroyable le comprimait. De l'air s'échappait littéralement du corps d'Esprit. Elle n'arrivait plus à voir ses os, il y avait trop de lumière. C'était comme s'il devenait pure blancheur. Elle le crut presque mort. Les secousses cessèrent. Il retrouva son calme, mais parut totalement exténué. Soudain, il poussa un cri. Une seule note tenue, glaçante, émise comme par défi. La lumière s'éteignit presque aussitôt. Le cœur de sa reine se mit à battre la chamade. Elle avait les bras baignés de sueur, la respiration courte et précipitée. Esprit rouvrit les yeux quelques instants plus tard. Il lui sourit faiblement et laissa reposer sa tête contre son bras. « J'ai cru pendant un instant que je me trouvais au paradis. Que s'est-il passé ? » s'enquit-elle avec inquiétude. « Est-ce qu'il faut que j'aille chercher du secours ? » ?»« Non, ça m'arrive de plus en plus souvent. »«
Souvent ?» demanda doucement sa reine. « À nous tous ?»
Esprit rit faiblement. « Non, rien qu'à moi. Je suis celui que le Dor a décidé de détruire. »«
Le Dor ? Qu'est-ce que j'esquère à avoir là-dedans ?»
Il sourit. « Alors comme ça, notre belle princesse a reçu elle aussi une éducation religieuse. »
« La belle princesse connaît bien des choses, » fit-elle d'un ton dédaigneux. « J'aimerais savoir pourquoi un humble serviteur de Domu pense que l'esprit supérieur de Jesker tente de le détruire. »
La jeune femme aida Esprit à s'asseoir.
« Ça doit avoir un lien avec la Hondor, » expliqua-t-il d'une voix fatiguée.
« La Hondor ? Mais ce n'est qu'une légende païenne. »
Elle avait prononcé ces paroles sur un ton peu convaincu, mais après ce qu'elle venait de voir... Esprit haussa les sourcils.
Nous sommes maudits, condamnés à vivre dans ce corps immortel, et notre ancienne magie ne pourrait pas fonctionner. N'aviez-vous pas un Séon ?
C'est différent, dit sa reine d'une voix soudain émue.
Mais elle n'eut pas le temps de penser à Haché. Il leva la main et se mit à dessiner. Des lignes se formèrent dans l'air sous ses doigts. Ces 10 dernières années, les prêtres Korati avaient fait leur possible pour circonscrire la magie des Lantris. Seuls les Séon avaient été épargnés. Ils étaient considérés comme des esprits bienveillants, envoyés par Domu pour protéger les gens et leur apporter du réconfort. Sa reine avait appris, et toujours cru, que la magie des Lantris n'était avant tout qu'une légende. À présent, cependant, la jeune femme se retrouvait confrontée à cette possibilité. Ces légendes avaient peut-être du vrai.
« Apprenez-moi, » murmura-t-elle. « Je veux savoir. »
Sa reine ne pleura que bien plus tard, une fois la nuit tombée. Esprit avait passé la majeure partie de la journée à lui expliquer tout ce qu'il savait sur la Hondor. Il avait visiblement fait des recherches poussées sur le sujet. Sa reine l'avait écouté avec plaisir, jouissant de la distraction et de la compagnie que ce moment lui procurait. Le temps avait passé sans qu'il s'en rende compte. Il faisait nuit depuis longtemps lorsqu'Esprit avait raccompagné la jeune femme jusqu'à son nouveau logement. Depuis, elle était recroquevillée sur son lit, tremblante de froid. Deux femmes dormaient dans la pièce et ronflaient bruyamment. Elles n'avaient pas remonté leur couverture malgré l'air glacial. Les autres élantriens ne semblaient pas souffrir autant que sa reine des variations de température. Esprit était convaincu que leur corps se trouvait dans une sorte de stase, qu'ils avaient cessé de fonctionner normalement,
comme s'ils attendaient que le Dor achève leur transformation. Toujours était-il que la princesse avait froid. L'atmosphère lugubre ne lui donnait en rien meilleure morale. Elle s'assit dans son lit, dos contre le mur en pierre, et repensa aux regards. À ces regards affreux. La plupart des autres élantriens étaient tombés malades la nuit, et l'on avait découvert leur maladie en petit comité. Sa reine, elle, s'était retrouvée exposée devant toute l'aristocratie, à son propre mariage. La princesse se sentait morte de honte. Sa seule consolation tenait dans le fait qu'elle ne croiserait certainement jamais plus aucun d'entre eux. Le réconfort était mince, car elle ne reverrait pas son père, sa mère ou son frère pour cette même raison. Elle avait perdu Kiin et les siens. Alors qu'elle n'avait jusqu'à présent jamais souffert du mal du pays, elle se mit soudain à regretter sa vie passée. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à son échec personnel. Esprit lui avait demandé des nouvelles de l'extérieur, mais le sujet s'était vite révélé trop douloureux. Tel-Ri devait être devenu roi à cette heure, ce qui signifiait que Raten ne tarderait pas à convertir tout l'Arellon. En silence, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle pleura sur son mariage, sur l'Arellon, sur la folie d'Aché, et à cause de la honte que ce cher royal avait dû ressentir. Mais penser à son père s'avérait plus douloureux encore. La seule idée de ne plus jamais sentir son amour, de ne plus entendre ses moqueries, de ne plus jamais recevoir son approbation inconditionnelle, emplissait son cœur d'un écrasant sentiment d'effroi. « Madame, » murmura une voix grave et hésitante, « est-ce bien vous ?» Sous le choc, elle leva ses yeux pleins de larmes. Avait-elle une hallucination ? Oui, certainement. Elle ne pouvait pas avoir entendu « Dame sa reine ?» La voix d'Aché. Puis elle le vit, flottant près de la fenêtre. Son âme brilla à peine. « Aché ?» appela-t-elle. « Oh, béni soit Domu !» s'exclama Laon en volant rapidement vers elle. « Aché !» s'écria-t-elle en essuyant ses larmes d'une main tremblante, engourdie par le choc. « C'est la première fois que je t'entends prononcer le nom du Seigneur !»«
Puisqu'il m'a conduit jusqu'à vous, je veux bien me convertir !» répondit Aché en palpitant d'excitation.
Elle se retint de prendre la boule de lumière et de la serrer dans ses bras.
« Aché, mais tu parles ! Tu ne devrais plus parler, tu devrais être... »«
Fou !» compléta le Séon. « Oui, madame, je le sais. Et pourtant, je ne me sens pas différent d'avant. »«
C'est un miracle !»«
Une chose étonnante, tout au plus. Peut-être devrais-je vraiment penser à me convertir au Shukorat. »
Sa reine éclata de rire. « Seynalan n'acceptera jamais. Mais sa désapprobation ne nous a jamais empêchés de faire ce que nous voulions, n'est-ce pas ?»«
Pas une seule fois, madame. »
Sa reine appuya son dos contre le mur, heureuse d'entendre à nouveau cette voix familière.
« Vous n'imaginez pas à quel point je suis soulagée de vous avoir retrouvée, madame. Cela fait 2 jours que je vous cherche. Je commençais à craindre qu'il ne vous soit arrivé malheur. »
« Mais il m'est arrivé malheur, Aché, »
fit sa reine en souriant.
« Je voulais dire quelque chose de plus horrible, » reprit le Séon. « J'ai vu le genre d'atrocité que cet endroit peut engendrer. »
« Les choses sont différentes à présent. Je ne sais pas comment il a pu s'y prendre, mais Esprit est parvenu à améliorer les conditions de vie à Elantris.
« Si cela vous a protégé, alors qu'il soit béni. »
Elle comprit soudain quelque chose. Si Aché était en vie, sa reine avait un lien avec le monde extérieur. Elle n'était pas totalement coupée de Kiin et de ses amis. « As-tu des nouvelles des autres ? » demanda-t-elle.
« Non, madame. Après l'annulation de la cérémonie, j'ai passé 1 heure à supplier le patriarche de bien vouloir vous libérer. Il ne m'a pas paru franchement désolé de vous savoir malade. Ensuite, j'ai compris que je vous avais perdu. Je me suis rendue aux portes d'Elantris, mais apparemment trop tard. » On vous y avait déjà envoyé ici. Quand j'ai demandé aux gardes où vous étiez, ils ont refusé de me répondre, comme s'il était tabou de parler des élantriens. Je leur ai dit que j'étais votre Séon, mais cela les a rendus nerveux. Ils ont refusé de me parler après cela. J'ai dû arpenter la ville sans la moindre information. Je n'ai eu de cesse de vous retrouver. »
Sa reine sourit, imaginant le Séon indigné en train de se disputer avec le chef de la religion Korati. « Tu n'es pas arrivé trop tard, mais trop tôt.
Apparemment, il n'ouvre les portes d'Elantris qu'une seule fois par jour, et l'heure de la cérémonie était assez tardive. J'ai passé la nuit dans la chapelle. Ils m'ont conduite à Elantris cet après-midi seulement.
« Ah !» dit le Séon, en faisant une petite révérence pour lui signifier qu'il comprenait.
« Tu me trouveras ici dorénavant, dans la partie propre de la ville. »
« C'est un endroit intéressant. Je n'étais jamais venu ici. On ne voit rien de l'extérieur. Pourquoi cette zone est-elle différente des autres ?»«
Tu verras bien. Reviens demain. »«
Revenir, madame ?» fit Haché, indigné. « Je n'ai aucune intention de vous quitter. »
« Pour quelques heures seulement, mon ami. J'ai besoin d'avoir des nouvelles de Kae, et les autres doivent savoir que je vais bien. »«
Bien, madame. »
Sa reine resta silencieuse un moment. Esprit avait vraiment fait des efforts considérables pour que personne n'apprenne l'existence de la nouvelle Elantris. Elle ne pouvait pas trahir son secret de façon si désinvolte, même si elle faisait totalement confiance aux gens à qui Haché parlerait. « Dis-leur que tu m'as retrouvée, mais ne dis rien sur ce que tu as vu ici. »«
Oui, madame. » répondit le Séon d'une voix soucieuse.
« Juste un instant, madame, votre père aimerait vous parler. » Haché se mit à palpiter, puis sa lumière se transforma en pluie avant de prendre la forme du visage large et ovale d'Eventéo.
« En, c'est toi !»
s'exclama Eventéo, fou d'inquiétude.
« Je suis là, père. »«
Oh, Domu, sois remercié. Sa reine, on ne t'a pas fait de mal ?»«
Je vais bien, père, »
assura-t-elle. Elle prit tout à coup conscience qu'elle serait capable de tout affronter tant qu'elle entendrait la voix de son père.
« Maudit Seynalan, il n'a pas bougé le petit doigt pour te faire libérer. Si je n'étais pas aussi croyant, je le ferais décapiter sans la moindre hésitation. »«
Nous devons nous montrer juste, père, » dit sa reine. « Si une fille de paysan peut se retrouver à Elantris, alors une fille de roi aussi. »
« Si ce que l'on m'a dit est vrai, personne ne devrait se retrouver dans ce trou. »
Ce n'est pas aussi terrible que tu le penses, père. Je ne peux pas t'en dire davantage, mais la situation est plus encourageante que je ne l'avais présumé.
Encourageante ou pas, je vais te faire sortir de là.
Père, non, supplia sa reine. Si tu envoies des troupes en Arelon, non seulement tu laisseras le Théode sans armée, mais tu t'aliéneras notre seul allié.
Il ne restera pas notre allié bien longtemps, si j'en crois mes espions, fit Eventéo. Le duc Tel'ri'i va attendre quelques jours avant de se faire proclamer roi, mais tout le monde sait qu'il montera sur le trône, et il est en très bon terme avec ce Giorn, Raten. Tu as fait ton possible, En, mais l'Arelon est perdu. Je vais venir te chercher. Ensuite, je rentrerai préparer l'invasion. Peu importe combien d'hommes Virne lèvera, il en aura toujours moins que moi, sans compter que le Théode possède les meilleurs bateaux de toutes les mers.
Père, tu as peut-être déjà renoncé à l'Arelon, mais pas moi.
Sa reine, fit Eventéo avec colère. « Ne recommence pas avec ces histoires. Tu n'es pas plus arelloise que moi. »«
Je ne plaisante pas, père, » rétorqua la jeune femme avec fermeté. « Je ne quitterai pas l'Arelon. »
« Idos Domu, sa reine, c'est de la folie. Je suis ton père et ton roi. Je vais te ramener, que tu le veuilles ou non. »
Sa reine essaya de retrouver son calme. Personne ne convainquait jamais Eventéo par la force.
« Père, » reprit-elle avec amour et respect. « Tu m'as appris à faire preuve de courage. Tu m'as confrontée à des situations difficiles. Parfois, je t'ai maudit pour cela, mais la plupart du temps, j'ai béni ton soutien. Tu n'as jamais cherché à m'influencer. Tu renierais cela à présent en me privant de mon droit de choisir ?»
Sa reine vit son père baisser la tête sans mot dire. « Tu ne resterais pas fidèle à ton enseignement en ne cédant pas, père, » dit-elle calmement. « Si tu crois sincèrement aux idéaux que tu m'as enseignés, laisse-moi prendre ma décision. »
Il finit par répondre. « Tu les aimes à ce point, N ?»«
C'est mon peuple désormais, père. »
« Depuis moins de 2 mois. »
« L'amour ne dépend pas du temps, père. Il faut que je soutienne l'Arelon. Si cette nation doit tomber, je tomberai avec elle, mais cela n'arrivera pas. Il doit bien y avoir un moyen d'arrêter Tel'ri'i. »
« Mais tu es enfermée dans cette cité, sa reine. » Que pourrais-tu bien faire depuis cet endroit ?
Haché peut jouer les messagers. Je ne peux plus les guider, mais je compte bien me rendre utile. Et même si je ne le peux pas, je vais rester.
Je vois, conclut son père en poussant un profond soupir. Ta vie t'appartient, sa reine. Je l'ai toujours su, même si je l'oublie de temps en temps.
Tu m'aimes, père. Nous protégeons ce que nous aimons.
Et c'est ce que je fais. Ne l'oublie jamais, ma fille. »
Sa reine sourit. « Je ne l'ai jamais oublié. »
« Haché ?» appela Eventéo. « Oui, mon roi, » fit le Séon d'une voix profonde et déférente. « Je te charge de la surveiller et de veiller sur elle. Si jamais elle est blessée, tu m'appelleras. » « Comme je l'ai toujours fait et le ferai toujours, mon roi, » répondit Haché. « Sa reine, je vais mettre l'armada en dispositif défensif. Fais savoir à tes amis que tout navire étranger qui circulera dorénavant sur les eaux théoises sera coulé sans préavis. Le monde entier nous a tourné le dos. Je ne mettrai pas la vie de mon peuple en jeu. »
« Je les préviendrai, père, » promit sa reine.
« Alors bonne nuit, Aine, et que Domu te protège. »